Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission hebdomadaire, le Forum de la presse. Le rendez-vous hebdomadaire avec nos confrères de la presse écrite, audiovisuelle ou en ligne pour analyser l'actualité de la semaine. Au menu du Forum de la presse de cette semaine, l'annulation des festivités de la cure salée de cette année sur décision du ministère de l'Agriculture. Sur le plan politique, les résultats de l'audit du fichier électoral par l'Organisation internationale de la francophonie ont suscité des réactions au sein de la classe politique nigérienne, notamment au sein de l'opposition. La situation du Mali, le bras de fer entre la junte militaire au pouvoir au Mali et la CEDEAO continue. Nous reviendrons sur les derniers développements de la situation. Pour en discuter, nous avons le plaisir de recevoir nos confrères Maimouna Diado, journaliste freelance au studio avec nous. Maimouna, bonsoir.
Bonsoir.
Nous avons Hassan Boukar, journaliste à la radio alternative, au téléphone avec nous. Hassan Boukar, bonsoir.
Bonsoir.
Et Ousseini Issa, sur ce plateau, journaliste freelance. Ousseini, bonsoir.
Bonsoir.
Merci à vous tous d'avoir accepté notre invitation. Je suis Alassane Kouzi Mahamadou pour la présentation de ce forum. Bienvenue à toutes et à tous dans le forum de la presse du studio Kalangou de ce vendredi 18 septembre 2020. Le vendredi 11 septembre passé, les experts de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, et ceux de la Commission économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, ont présenté au public les résultats de l'audit du fichier électoral biométrique du Niger. En conclusion, les experts auditeurs ont affirmé que le fichier biométrique électoral est fiable. Du côté de la majorité au pouvoir, l'on se félicite de ces résultats. Suivons Boubacar Sabo, membre du bureau politique du PNDS Tareya, au micro de Moussa Hassan.
Moi, je n'ai jamais eu d'inquiétude par rapport à la qualité du fichier, parce que le fichier, son organisation, c'est issu surtout du code électoral. Ce n'est que la traduction de ce qu'il y a dans le code. Et le code électoral nigérien, sa particularité, c'est d'être un code transparent. Vous savez que tous les partis politiques étaient au niveau des commissions administratives. C'est là-bas que tout se décidait. Et au niveau des CEV, donc les centres de règlement et de vote, tous les partis aussi étaient présents à travers ce qu'on a appelé la brigade. C'est eux qui étaient dans tous les villages, dans tous les hameaux, en relation avec les agents de règlement. Donc moi, je ne suis pas surpris aujourd'hui que l'audit dise que le fichier électoral nigérien était fiable.
C'était Boubacar Sabo, membre du bureau politique du PNDS Tareya. Alors, pour sa part, Tahirou Gimba, membre des partis non affiliés, pense tout le contraire.
L'invalidité ou la validité d'un fichier ne peut pas relever d'une organisation comme celle-là. Ce n'est pas un fichier propre, c'est elle qui le dit. Le fichier a été élaboré de bout en bout par un seul parti politique qui est au pouvoir et qui met tout le monde au pas. C'est dommage que l'OIF s'en tient à ce genre de conclusion pour penser que c'est fini puisque l'OIF a parlé. On doit permettre aux Nigériens ou des Africains qui connaissent un peu le Niger, comme vous venez de donner un département de Bagaroua. L'OIF connaît quoi d'un Bagaroua? Elle ne peut pas savoir si Bagaroua avait 10 000 électeurs en 2016. Elle ne peut pas savoir comment c'est passé à 26 000 électeurs ou à 40 000 électeurs. Elle ne peut pas le savoir.
C'était Tahirou Gimba, un responsable de parti politique, membre des partis non affiliés. Quant à l'opposition politique, dans un communiqué en date du samedi 12 septembre 2020, les deux coalitions politiques, à savoir CAP 21 et Gaïa Zabé, ont rejeté en bloc les résultats de l'audit du dit fichier électoral biométrique opéré par l'OIF. Selon elle, ce fichier ne saurait garantir des élections transparentes et crédibles. Alors, je commence tout de suite avec vous, Hassan Boukar. Vous êtes au téléphone avec nous. Quelle analyse déjà vous inspire ces réactions liées à l'audit du fichier électoral?
Merci Alassane. Je pense que c'est quelque chose de tout à fait logique. L'opposition et la majorité au pouvoir sont à coup.
Nous allons revenir au studio, le temps de rétablir la liaison téléphonique avec Hassan Boukar. Alors, Hussein Issa, quelle analyse vous inspire ces réactions liées à l'audit du fichier électoral?
Alassane, je crois que c'est tout à fait, comme avait dit logique, que le représentant de la MRN, celui qui s'est exprimé là, dise que tout est bon, tout est bien. Mais c'est leur position, bien évidemment. Quand on sait un peu comment le processus a été conduit, à partir du code électoral jusqu'à la mise en place de la CENI, ça a été fait de manière exclusive. Le camp du pouvoir seulement qui a concocté tout ça. Il y a eu des réactions en amont, il continue à avoir des réactions aujourd'hui. Et c'est tout à fait normal que les opposants disent non. Non, parce qu'on ne fait pas organiser des élections démocratiques dans un pays en voulant exclure une bonne frange de la classe politique. Et on tend vers ça.
Maintenant, est-ce que c'est de leur faute?
Parce qu'on sait aussi que l'opposition c'est de leur faute. Mais attendez, on ne peut pas me faire venir m'asseoir autour d'une table pour me dire de valider quelque chose auquel je n'ai pas pris part. Ça n'a pas de sens. C'est comme si je viens cautionner un travail auquel je n'ai pas véritablement participé. L'opposition a décidé de boycotter parce qu'il y a eu des révisions du code électoral. Ça a été fait de manière unilatérale. Tout le monde le sait. De manière unilatérale pour dire, venez, on va valider le code. Ça a passé. Quand ils ont lancé l'enrôlement et l'établissement des pièces d'état civil, les forums, les audiences forums, qu'on a vu comment ça s'est passé. D'abord, la mise en place de la CENI même est contestée. Ce n'est pas une CENI véritablement consensuelle. Indépendamment de ça, on a vu le dernier, acte ridicule. Vous demandez, l'opposition a décidé d'aller s'asseoir pour voir quelle est la qualité du travail. Quand l'OIF est arrivé, parce que c'est ce qui est dommage pour une institution comme l'OIF, pour venir valider en 4 jours un travail qui a été fait sur 3 ans, pratiquement. Quand l'OIF est arrivé, quand les 2 experts de l'opposition sont allés dans la salle, on leur dit non, vous ne pouvez pas voir ce qu'il y a dedans, vous êtes là en tant qu'observateur. Est-ce que les experts de l'OIF sont plus qualifiés que les Nigériens qui savent un peu les réalités du pays, les 4 coins du pays, ils savent? Est-ce que quelqu'un qui est venu en 4 jours, il peut comprendre qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça qui est dommage. Parce que
quand même, il y a une base sur laquelle ils travaillent avec des indicateurs.
Non, mais non, s'il te plaît. C'est trop facile.
Sur la forme.
Non, c'est-à-dire, il ne faut pas infantiliser les Nigériens. On a vu un peu en 2016 ce qui s'est passé. Est-ce qu'ils sont prêts à accepter une réédition de ce qui s'est passé en 2016? Ils sont des politiciens et c'est tout à fait normal qu'ils contestent. Et je sais que sur la base de ce fichier-là, il faut faire beaucoup attention. Ça risque de poser des problèmes. En tout cas,
quel genre de problème?
Une crise pré- ou post-électorale. Ça peut se poser, comme ça s'est passé dans d'autres pays.
Alors, Maimouna Diadou, quel est votre point de vue à ce sujet? On a vu qu'en tout cas, il y a des réactions et des appréciations divergentes et différentes.
Oui, bon, il fallait s'y attendre.
De l'opposition non affiliée à la majorité au pouvoir.
Il fallait s'y attendre selon, donc, par ce que l'OIF appelle le fichier biométrique normal.
Fiable. C'est le terme utilisé.
Oui, bon, c'est le terme qu'il a utilisé, que l'OIF a utilisé. Et nous avons déjà l'OIF en 2016, c'était la même chose, où les élections ne se sont pas très bien passées ici au Niger, bien que ces organisations disent que les élections se sont bien passées. Ça veut dire que tout simplement, il fallait s'y attendre aux réactions des uns et des autres. Et les réactions ne peuvent être que des réactions divergentes. Parce que tout simplement, la majorité défend la majorité. Le responsable qui a parlé en tant que responsable du côté de la MRN ne peut que défendre la MRN sur cette position. Et vous avez entendu Tahir Gimba aussi a pris une position en défendant tout simplement leurs idéaux, parce que tout simplement ils ne peuvent pas concevoir aujourd'hui qu'on vienne dans un pays où par exemple il y a des coins et des recoins où le fichier biométrique, où il n'y a pas eu d'enrôlement biométrique pour le fichier, et qu'on vienne dire qu'on a un fichier fiable ici au Niger, où les Nigériens peuvent aller voter, où les élections peuvent se passer normalement, sans qu'il y ait de problème. Non, mais je reviens à ce que Hussein vient de dire à l'instant. Depuis l'emplacement même donc de la CENI a été d'abord contesté.
La mise en place
de la CENI a été contestée. Vous avez vu, l'enrôlement a été contesté parce qu'il y a les opposants qui ont détecté des fraudes au niveau donc de certaines régions du pays et de certaines localités où il y a eu des vols d'achat de conscience par rapport justement à cette étape donc d'enrôlement. Pour les Nigériens que nous sommes ou bien pour la classe politique que nous voyons, c'est c'est un seul bord qui est en train de mener la danse. Les autres sont en train d'observer. Moi, je pense que en 4 jours, comme il a dit, on ne peut pas venir auditer un fichier de 3 ans.
Nous allons retourner vers Hassan Boukar qui est au téléphone avec nous. Nous avons rétabli la liaison. Hassan Boukar.
Oui, je pense que, comme l'ont dit mes prédécesseurs, la prise de position des différents camps politiques n'a rien d'étonnant. Je pense que l'opposition et la majorité n'arrivent pas à s'entendre sur le processus électoral. Et donc, ce n'est pas l'audit du fichier électoral qui va ramener la confiance entre les deux camps. Donc, la position des uns et des autres, pour moi, est tout à fait normale. L'opposition considère que tout le processus a été fait par la majorité. La majorité a beau se défendre, donc elle aura du mal à prouver que... Parce que seulement l'OIF a dit, tout ne peut pas rentrer dans l'ordre. Pour moi, on va droit vers une crise, en tout cas par rapport à ces élections-là. L'OIF aussi joue sa crédibilité. À un moment, les institutions internationales venaient jouer le rôle d'observateur. Maintenant, ils viennent auditer les fichiers pour dire tout est bon. En tant qu'observateur, ils ont pris des décisions qui ont été souvent objet de controverses dans les pays. Aujourd'hui, ils sont sur les fichiers électoraux. Je pense que les institutions comme l'OIF jouent aussi leur crédibilité. Et je pense que ce qu'il vient de dire ici ne fait pas régler tous les conflits que vivent les différents acteurs politiques au Niger à la veille de ces élections de 2021. Donc, ils ont beau avoir leur expertise, les gens contestent, pas seulement un fichier, mais tout le processus. Lorsque l'opposition met en cause la CENI, lorsqu'elle met en cause le juge constitutionnel, ça veut dire que c'est tout le processus aujourd'hui qui est mis en cause, faute de consensus. Et donc, le fait que les experts de l'OIF viennent dire que tout est bon, tout est clean, ne peut rien régler, à mon avis. Le fond du problème reste, c'est qu'il n'y a pas de confiance entre les différents acteurs. Et lorsqu'il n'y a pas de confiance, souvent, on va droit vers une crise électorale.
À l'issue de l'audit, les experts de l'OIF et de la CEDEAO ont relevé des forces et des insuffisances que comportent donc les 10 fichiers électoraux. Entre autres insuffisances, l'on pouvait lire, par exemple, l'institution de systèmes de témoignage pour justifier l'enrôlement d'électeurs sans document d'identification, le non-respect du seuil minimum légal de 50 électeurs par bureau de vote, l'absence de la diaspora, donc de la frange diaspora sur ce fichier, etc. Alors, au vu de ce qui précède, peut-on s'attendre à des scrutins libres et transparents qui seront acceptés de tous, Hassan Boukar?
Rendez-vous compte, Alassane, que les problèmes que vous venez d'évoquer ne sont pas des problèmes techniques, ce sont des problèmes politiques. La seule façon de les régler, c'est un consensus entre les acteurs engagés dans le processus électoral. Dès lors que vous n'avez pas de consensus, c'est chaud, vous ne pouvez pas les régler, ce n'est pas possible. La question de est-ce que peut-on faire par témoignage, jusqu'où le témoignage est acceptable, etc., etc., c'est des questions qui se règlent par consensus entre acteurs politiques. Vous n'avez aucune expertise technique qui peut régler ça comme par un coup de baguette magique. Donc, c'est des questions de fond. Là où vous n'avez pas de consensus, vous n'avez aucun moyen de les régler. Ceux qui ont le pouvoir ont toujours l'impression qu'ils sont suffisamment forts pour imposer leur point de vue. Les autres comptent sur leur capacité à perturber, à refuser justement ce coup de force. Et donc, pour l'instant, il n'y a pas de terrain d'entente. J'imagine que on a fait intervenir l'OIF pour dire que c'est un acteur neutre et que par la médiation internationale, les choses peuvent se régler. À mon avis, on a atteint un niveau de crise vraiment tellement élevé au point où même la médiation internationale ne peut pas régler les choses facilement. Donc pour moi, ces questions, c'est des questions de fond et une expertise technique ne peut pas les régler.
Comment peut-on alors les régler à votre avis? Qu'est-ce qu'il faudra faire aujourd'hui s'il faut tenter de récupérer ce qui est encore récupérable ou tenter de rectifier le tir?
Il faut que la CENI prenne conscience du fait qu'elle a beau dire qu'elle fait un travail technique, le côté politique bloque son travail. S'il n'y a pas d'entente, s'il n'y a pas de consensus entre différents acteurs engagés dans les élections, la CENI ne pourra pas faire normalement son travail technique. Le président de la République, puisque c'est lui qui a promis de faire des élections libres et transparentes avant de quitter le pouvoir, à mon avis, il doit s'investir faire en sorte que chacun fasse un consensus afin que le dialogue puisse reprendre. Parce que depuis 2-3 ans, on n'a pas de dialogue. Le Conseil national de dialogue politique est devenu un conseil de sourds où les gens se parlent entre eux-mêmes parce qu'il y a seulement un camp politique. À la limite, les non-affiliés se sont rajoutés. Et donc, pour moi, aujourd'hui, la question profonde, c'est une question de manque de consensus entre les acteurs. Et vous ne pouvez pas faire des élections libres, transparentes, acceptées par tous, si vous n'avez pas de consensus dès le départ. On est déjà pratiquement dans une crise préélectorale. Et donc, cette crise aujourd'hui, si on ne met pas les moyens pour régler la crise, on va vers une crise post-électorale. Ça veut dire que les acteurs aujourd'hui ne sont pas préparés à accepter les résultats issus des jeunes. On a beau dire l'OIF a audité, tout. Non, les gens ne vont pas l'accepter parce que le processus tel qu'il a été fait n'est pas un processus consensuel. Le pouvoir a considéré que si les autres ne viennent pas, je vais continuer quand même à faire les choses. Et eux, ils considèrent qu'on va vous dévaler, on va montrer à la face du monde que vous faites tout seul. Et donc, on va agir sur la crédibilité du processus. On est dans ce cas-là aujourd'hui. Et donc, s'il n'y a pas de consensus, à mon avis, on aura du mal à trouver des élections qui puissent satisfaire tous les acteurs.
Bien, nous revenons au studio Hassan Boukar avec Maimouna Diado. Alors Maimouna, vous avez suivi Hassan Boukar. On voit que chacun est campé sur sa position. On a une CENI qui est contestée depuis un bon bout de temps par l'opposition. L'enrôlement, en tout cas, a été aussi critiqué. Nous sommes maintenant à la phase de l'audit du fichier, aussi qui n'est pas accepté. Finalement, Hassan Boukar évoque le fait que nous sommes en tout cas en train d'aller vers déjà une crise. Voilà, déjà les élections n'ont pas encore eu lieu. Déjà, il y a vraiment, en tout cas, tous les indicateurs d'une mésentente vraiment très, très, très ouverte. Comment est-ce qu'aujourd'hui, on peut encore rectifier le tir? Est-ce qu'on peut encore rectifier le tir? Et si oui, comment?
Oui, bon, on peut toutefois rectifier le tir, à mon avis. Parce que qu'est-ce qui bloque, Hassan l'a dit tout à l'heure, c'est vraiment le dialogue. Qu'il n'y a pas de dialogue entre les deux parties ou bien les trois parties, mais je prends seulement les deux parties. C'est-à-dire que l'opposition et la majorité. Aujourd'hui, si la majorité essaie de voir, ne serait-ce que les doléances posées par l'opposition, mais ces doléances-là, mais pourquoi aujourd'hui la CENI ou bien le CNDP ne peut pas véritablement s'asseoir sur la table, regarder de près ces doléances? Est-ce que ce sont ces doléances-là peuvent sauver les élections au Niger? Mais tant mieux, mais si ça peut sauver les élections au Niger, mais pourquoi ne pas venir sur la table de négociation?
Est-ce qu'il y a véritablement, est-ce qu'il y a une doléance précise?
La CENI a été contestée. L'opposition a demandé qu'on regarde peut-être qu'on essaie de voir les membres qui sont au niveau donc de la CENI. Je pense que ça, là, c'est déjà dépassé. Mais maintenant, l'opposition a beau crier qu'il y a eu, au niveau donc de l'enrôlement biométrique de ce fichier, des fraudes par rapport donc à l'enrôlement. Ils n'ont pas été, l'opposition n'a pas été écoutée. L'opposition a demandé à ce qu'il y ait une mini-conférence, je pense bien, pour qu'ils puissent, que chacun puisse dire véritablement ce qu'il pense de tout ceci. Ça n'a pas été ça n'a pas été du tout pris en compte. Et je pense que aujourd'hui, le fichier est contesté. Le fichier qui est contesté, pour rectifier le tir, c'est seulement le dialogue qui reste à faire.
Alors, l'opposition et
la majorité doivent se retrouver. Parce que, quelle que soit leur position, il faut regarder d'abord le pays.
Pour renouer ce dialogue dont vous parlez, Maimouna Diado, à votre avis, quelle est la partie qui doit être vraiment enclin à vouloir ce dialogue? Parce que souvent, on a vu que le CNDP, il est convoqué. Il est convoqué par le Premier ministre, qui est son président, et l'opposition qui boycotte les séances. Et alors, est-ce que
l'un de l'autre, je pense que que ça soit la majorité au pouvoir aujourd'hui, la MRN, qui demande la convocation du CNDP et l'invitation sur la table par l'opposition, je pense que c'est des choses où il faut vraiment, les deux doivent véritablement aller vers un consensus, parce que le Niger nous appartient tous. Le Niger n'appartient pas seulement uniquement à l'opposition, le Niger n'appartient pas uniquement à la mouvance présidentielle. Donc je pense que il n'y a rien qui puisse ne pas être aujourd'hui arrangé entre les deux parties. Mais Ce que nous voulons, c'est la majorité qui doit d'abord, on dit, balayer devant sa porte pour pouvoir amener ceux qui sont en train de refuser de venir sur la table. Peut-être en balayant devant sa porte, l'opposition pourra accepter de venir sur la table pour pouvoir s'entendre.
Et balayer devant sa porte, ça veut dire ?
Mais balayer devant sa porte, ce que l'opposition est en train de contester aujourd'hui. Avec ne serait-ce que
faire preuve de sincérité.
De sincérité dans les négociations, parce qu'il n'y a pas de sincérité. Ici, il n'y a pas de sincérité. L'opposition continue toujours à boycotter.
Houssaine Issa, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, ce dialogue est justement possible?
Bon, il ne faut pas se voiler la face. On a suivi le processus. Quand on dit l'opposition boycotte souvent, on a oublié qu'auparavant, l'opposition venait siéger. Mais quand la mouvance a considéré que c'est eux, c'est leur instrument, que quand l'opposition vient, même avec des doléances, ils refusent, ils disent non. Vous considérez qu'ils vont continuer à venir s'asseoir juste pour valider des actes qui vont être posés, véritablement la source
qui
du
blocage.
Qui
vont les engager.
Oui, mais à partir du moment où tu viens autour d'une table pour t'asseoir, ça veut dire que tous les actes qui vont être pris, tu es d'accord avec ça. Même si tu sors pour protester, on va te demander demain pourquoi tu es venu. Pourquoi tu es venu t'asseoir? C'est en ta présence que ça a été fait. Parce que l'esprit du CNDP, ils sont en train de le dévoyer, ils l'ont dévoyé carrément. Je me rappelle quand le CNDP a été mis en place avec le concours du PNUD en 2004. C'était pour créer les conditions de consensus, de recherche de consensus autour de toutes les questions politiques qui peuvent créer des situations de trouble. Quand eux, ils sont arrivés, ils ont transformé le CNDP en un autre type d'instrument. Malheureusement. Mais vous ne voyez pas souvent. Mais en un instrument où ils peuvent contrôler les choses, ils peuvent prendre les décisions selon leur convenance. Sans tenir compte. Alors que ce n'est pas une question de majorité et de minorité. C'est une question de classe politique où il faut dégager un consensus autour de tous les points qui font blocage. Mais quand ils refusent ça, c'est bien beau de dire que l'opposition compte. Mais ils ont raison.
Donc, à votre avis, vous êtes d'avis avec Maimouna pour dire qu'aujourd'hui, la partie qui doit faire plus d'efforts aujourd'hui, c'est la partie.
Et imagine, le dernier qui vient d'être posé, ça dénote tout simplement de la mauvaise foi du pouvoir. Vous convoquez des gens, vous dites, donnez des experts qui vont venir avec l'expert de l'OIF pour auditer le fichier. Quand ils viennent dans la salle, vous dites non. Ils n'ont pas accès à la base des données, ils n'ont pas accès aux ordinateurs, ils vont être là juste. Ça signifie quoi? Ça signifie quoi? Est-ce que ce n'est pas de la mauvaise foi? Parce qu'au moins à ce niveau-là, à cette étape-là, à partir du moment où ils ont accepté de venir s'asseoir avec les auditeurs ou les experts de l'OIF, accepter qu'ils puissent voir. Ce n'est pas qu'ils vont prendre les ordinateurs pour amener chez eux, mais qu'ils puissent voir quel type de travail a été fait.
Mais c'est bien normal, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que la majorité doit balayer devant sa porte.
Vous refusez, du bout en bout, vous refusez à ce que ceux qui vont aller, vos adversaires, voient qu'est-ce que vous avez fait comme travail. Il faut être honnête, hein. Dans ce pays, il faut être honnête. On n'est plus dans cette logique d'honnêteté, malheureusement, dans le camp du pouvoir. Ils se disent, nous avons le pouvoir, nous allons faire ce que nous avons envie de faire. Si vous n'avez pas peur de quoi que ce soit, mais acceptez que l'autre voit au moins c'est le travail qui a été fait. C'est compliqué ça.
Alors, est-ce qu'on peut encore garder espoir que cette situation aujourd'hui d'emboulement puisse changer d'ici quelques mois?
Qui peut faire l'ouverture? Vous voyez les modifications qui ont été apportées au code électoral. Ça a posé beaucoup de problèmes. C'est eux seuls qui l'ont fait. Ensuite, quand ils ont commencé la mise en place de la CENI, on a vu dans quelles circonstances la CENI a été mise en place. C'est sur appel à candidature. On a vu un candidat qui présentait le profil, Dr Ahmed Hassan Boubacar. Il a été écarté parce que tout simplement, il considère que c'est quelqu'un qui les critique sur les télévisions.
Là, vous parlez de la présidence de la CENI.
De la CENI. Mais c'est faussé. À partir de ce moment, déjà, les choses ont commencé à être faussées. Ça veut dire qu'ils sont dans une logique. Cette logique, on va pousser. Peut-être les pousser à boycotter les élections. Peut-être c'est ça la logique. Mais ce que je veux dire, autre chose. En 2016, quand l'OIF est arrivé pour les élections de 2016, ils ont dit, c'est le meilleur fichier qu'on ait pu réaliser dans ce pays-là. N'est-ce pas? Ensuite, il y a eu les élections présidentielles et les législatives. Après ça, on devait organiser les élections locales. C'est eux-mêmes qui sont sortis, le premier ministre plus des ministres, pour dire que le fichier-là n'est pas bon pour organiser des élections locales. Alors, quel crédit voulez-vous que ceux-là d'en face accordent à ce fichier-là? En plus, c'est un fichier qui présente beaucoup de manquements. La 9e région n'a pas été enrôlée. On parle de fichier Bromé. Et c'est pourtant dans le code électoral. Il y a des localités...
Et là, on parle de force majeure.
Quelle force majeure? Quelle force?
La maladie manque à coronavirus
non,
avec
ça,
la fermeture
juste, ça,
des frontières.
C'est juste un alibi. C'est juste un alibi. Même à distance, ça pouvait se faire. Parce qu'on a quand même des représentations diplomatiques dans certains pays où les responsables peuvent organiser. En tout cas, les gens se connaissent, hein. Ce n'est pas grand monde au niveau de ces pays. En dehors de la sous-région, tu peux trouver et beaucoup de Nigériens. Quand tu vas vers l'Europe, ils se connaissent tous. C'est un manque de volonté, c'est de la mauvaise foi. Que le fait d'exclure... Alors, on ne peut pas parler parce que c'est le code qui précise qu'un fichier, la 9e région doit être comptabilisée.
Bien. Nous passons à un autre sujet au CNISA. Oui. La semaine dernière, le ministère de l'Agriculture a décidé de l'annulation des festivités de la Cure Salée, édition 2020, en raison de la pandémie de coronavirus et des inondations. Pour rappel, la Cure Salée est une fête qui se tient chaque année pendant la deuxième décade du mois de septembre à Ingal, dans la région d'Agadez. Il rassemble tous les éleveurs de la sous-région et à l'occasion de la fin de la saison des pluies et offrir une cure de sel aux animaux. Cette décision aura un impact évident sur les entreprises du secteur du tourisme et même sur les populations locales, estime le directeur général du Centre national de promotion touristique, Hanafi Souleymane, que je vous propose de suivre les au micro de Mokhtar Hamadou.
Les événements comme la Cure Salée et les différents festivals qui sont organisés sont pour le secteur du tourisme des produits d'appel. C'est-à-dire, ce sont des produits que les agences de voyage utilisent pour vendre la destination et faire venir des charters. Et qui dit regroupement dans une localité, dit hébergement dans les hôtels, restauration, transport, avec achat de souvenirs. Ça a un impact évident sur les entreprises du secteur et même sur les populations locales. Effectivement, ça fera un manque à gagner à toutes ces personnes qui peut-être certaines ont déjà fait des provisions dans ce sens-là. Maintenant, il faut relativiser parce que pour cette année, les frontières terrestres sont déjà fermées. Même si on l'organisait, il n'était pas évident que des vols charters quittent l'Europe pour venir au Niger. Et au cas où on réussit à avoir des accords avec des agences de voyagistes pour amener des groupes de touristes, il n'est pas évident que les mesures anti-Covid leur permettent d'assister pleinement à l'événement.
Vous venez d'écouter Hanafi Souleymane. Alors, nous allons, les responsables de l'association pour la redynamisation de l'élevage au Niger à Rennes saluent cette décision du gouvernement nigérien d'annuler les festivités de la Cure Salée. Pour eux, l'essentiel, c'est que les animaux puissent bénéficier, en tout cas, des séances de vaccination. Bourema Dodo, au micro de Mokhtar Hamadou.
Je comprends très bien que la Cure Salée 2020 soit annulée, cette décision. Je l'apprécie d'autant plus que ce qui concerne les éleveurs, c'est principalement les vaccinations. Les vaccinations vont continuer. Il est certain qu'il y a quelque chose que la région n'aura pas, c'est l'impact économique. Pour les éleveurs, en tous les cas, le déplacement est là. Les éleveurs font leur cure salée. Ils sont dans les pâturages. C'est ça qui compte énormément.
Hassan Boukar, vous êtes avec nous?
Oui.
Comment avez-vous accueilli la nouvelle de l'annulation des festivités de la Cure Salée d'Ingal, une grande rencontre en tout cas annuelle qui s'est fait chaque année dans la région d'Agadez, à Ingal précisément. Les autorités ont bien vu en décidant de l'annuler?
Écoutez, bien sûr, on considère qu'il y a toujours le risque de l'annulation du pays. On peut comprendre que tous les groupements soient visés par ce type de décision. Donc, malheureusement, on peut comprendre que la décision soit prise. Mais c'est bien dommage. C'est un événement majeur pour le monde paysan, les éleveurs de notre pays. Et bon, on ne peut rien faire.
Revenir au studio encore une fois de plus. Nous ne vous entendons pas très bien, Hassan Boukar. Et alors, Houssain Issa, la Cure Salée annulée pour cause d'inondation,
COVID-19. Bon, le COVID a le dos large. Vraiment, je peux considérer que c'est le prétexte facile pour annuler. Tant qu'à faire, la fête tournante de d'IFA, il faut l'annuler aussi. il faut l'annuler parce que c'est une manifestation qui va regrouper du monde. En vérité, peut-être il y a d'autres arguments. Il faut simplement renforcer les mesures de prévention sur le site. Mais dire non, à cause de ça, on annule. Peut-être il y a d'autres motivations.
Mais pour vous, l'argument de COVID-19 ne tient pas.
Mais s'il te plaît, vas-y au grand marché là. Vas-y à Wadata ou machin. Mm. Mais ce n'est pas de lieu de concentration humaine, de forte concentration humaine toute la journée. Mais moi, j'ai dit, dans tous les cas, peut-être...
Qu'en pensez-vous à des répercussions peut-être économiques?
Sur le plan, inévitablement, ça va avoir...
Il y en a déjà qui se sont déjà préparés, négativement,
ça va impacter sur l'économie locale. Parce que c'est une occasion qui est souvent saisie par les artisans pour vendre leurs produits.
Des articles.
Oui. Oui, c'est une occasion également pour certaines firmes d'aller vendre des médicaments et autres. Mais ça va pas, ils n'auront pas l'occasion. Peut-être qu'il y aura les services de l'État et quelques services, comment dirais-je, techniques qui vont faire le déplacement pour procéder aux vaccinations. Les vaccinations, notamment des êtres humains, mais également des animaux. Mais moi, j'ai dit, quelque part, peut-être c'est un manque de ressources financières.
Qui pourrait expliquer cela?
Bon, maintenant, comme il y a Covid qui est là, on peut mettre comme écran Covid pour annuler l'organisation de la fête.
Alors, décidément, l'année 2020, c'est l'année où, en tout cas, de tous les défis, peut-être pour le Niger, on a cette question de l'insécurité, la maladie à coronavirus qui est arrivée, les inondations. Le pays se prépare aussi, on l'avait évoqué tout à l'heure, aux échéances électorales dans quelques mois. Comment relever tous ces défis?
Ah, je ne sais pas, je ne suis pas du pouvoir, je ne peux pas savoir. Comment tu peux me poser la question, comment les défis là peuvent être relevés? Mais c'est les gens qui doivent le savoir, c'est eux qui sont aux affaires. Moi, je ne peux pas. Je sais simplement qu'il y a des problèmes d'argent. En tout cas, ils sont confrontés à des problèmes d'argent, des problèmes énormes d'argent. La preuve, ils vont sur le marché financier. En l'espace des mois, ils font des obligations, comment je vais dire, pour prendre à crédit des ressources. Et qui seront peut-être payés en 2021, voire 2022, 2023. Ça dénote tout simplement un peu que l'économie est totalement au ralenti. Ils n'ont pas d'argent pour pouvoir faire face à un certain nombre de charges. En tout cas, des choses qu'ils ont programmées, ils sont dans une situation extrêmement difficile. Parce que c'est juste, peut-être aujourd'hui, les salaires, même pour les payer, c'est du bricolage.
Mais mon Agado, j'avais cité ces défis, hein, Ousseini était étonné que je lui pose cette question, je vous réponds cette question. Alors, le Niger est vraiment confronté à des défis énormes, c'est surtout cette année. Alors, sur quoi miser pour faire face à ces défis sécuritaires, sanitaires, climatiques aussi?
Mais Ousseini a bien raison de dire que c'est le pouvoir. C'est au pouvoir de répondre à ta question. Parce que nous ne sommes que des invités sur ce plateau. C'est vrai, nous sommes des citoyens. Mais aujourd'hui...
Mais vous pouvez aider à la réflexion sur les pistes qui...
Si nous pouvons aider à la réflexion, on l'a toujours fait ici dans ce studio, je pense, par rapport à l'insécurité. Mais est-ce que ça a changé grand-chose? Ça n'a pas changé grand-chose. L'inondation, on en a parlé. Est-ce que ça a changé grand-chose? Ça n'a pas changé grand-chose. Donc aujourd'hui...
On ne sait pas, peut-être qu'il y a des oreilles attentives qui ont écouté, qui ont dit...
Mais est-ce qu'aujourd'hui, ils ont le temps pour les inondations? Est-ce qu'ils ont le temps aujourd'hui pour la sécurité? Ils ont le temps pour les élections à venir. Décembre déjà s'annonce, c'est les élections. Aujourd'hui, tout ce qui va venir avant ces élections ne sera pas pris en compte. Hein. C'est les élections... tout ce que nous voyons, tout ce qu'on nous donne, on nous sert comme plat de résistance aujourd'hui, ce sont ces élections-là.
Donc ces mois-ci à venir, c'est vraiment les élections qui vont focaliser les attentions. Nous allons permettre à Hassan Boukar rapidement de donner son point de vue sur ce sujet avant de continuer sur la dernière partie. Hassan Boukar, vous êtes avec nous?
Oui. Non, voilà. Pour moi, c'est bien dommage qu'on arrive à cette annulation, hein, comme je le disais. C'est vraiment dommage, c'est un rendez-vous extrêmement important pour les éleveurs de ces pays et des pays voisins. Bon, si on pense qu'il y a vraiment le Covid, je peux le comprendre à la limite. mais les conséquences sont vraiment énormes. C'est un rendez-vous irremplaçable pour les éleveurs. Mais je vois aussi quand même qu'il y a d'autres types de regroupements, hein, même si on parle d'actus cette année, les acteurs politiques sont quand même très actifs sur les terrains, il y a parfois des gens qui se réunissent pour des activités politiques, au point où certains peuvent douter vraiment si la raison fondamentale est bien celle-là. Et encore une fois, c'est bien dommage. C'est une fête particulièrement importante pour notre pays. C'est un des rares événements qui a une belle assise communautaire comme ça. Et bien, c'est bien dommage, c'est ça que je peux dire.
Nous terminons d'ailleurs voilà, sur la crise politique qui s'est vue au Mali. Les concertations et les rencontres internationales se poursuivent entre la junte militaire au pouvoir au Mali, la population malienne et la CEDEAO. Les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO et les membres du Comité national pour le salut du peuple, CNSP, se sont rencontrés à Accra, bien sûr, à la capitale ghanéenne, pour trouver une solution à la situation au Mali. La CEDEAO avalise la durée des 18 mois proposée par le CNSP comme date durée pour la transition. Cependant, la CEDEAO exige toujours un président, un premier ministre civil à la tête de cette transition. Hassan Boukar, comment comprendre ces tergiversations entre le CNSP et la CEDEAO?
Je pense que la CEDEAO doit faire confiance aux acteurs maliens. Les acteurs maliens connaissent bien les types de problèmes qu'ils ont. Ils savent à qui ils doivent confier leur pays pour trouver ne serait-ce qu'un bout de solution pour le problème civil de Mali aujourd'hui. La CEDEAO est dans une position où finalement elle veut trop peser sur le jeu des États, sur le jeu politique à l'intérieur d'un pays, alors qu'elle n'a pas les moyens. Regardez la position qu'elle a eue sur Ibrahim Boubacar Keïta en disant « c'est une ligne rouge, vous ne pouvez pas, etc. etc. » Aujourd'hui, vous voyez bien que cette ligne rouge est totalement dépassée. Donc, à mon avis, la CEDEAO veut vraiment prendre les prérogatives des États. Elle peut jouer son rôle, moi un rôle de conseil, un rôle d'accompagnement pour que la situation ne se gâte pas. Mais elle n'a pas à dire c'est ça ou rien. Elle agit comme un syndicat, quoi, quelquefois, la CEDEAO. Donc pour moi, il faut absolument laisser les acteurs maliens. C'est à eux de dire qu'est-ce qu'ils veulent. Est-ce qu'ils veulent des militaires à la tête du pays? Est-ce qu'ils veulent des civils à la tête du pays? C'est à eux de choisir. À mon avis, la CEDEAO doit être là pour accompagner. Elle n'a pas à dire il faut absolument que ce soit un tel ou un tel. Non. Il faut partager les Maliens. Ça peut être un militaire et un civil pour diriger la transition. C'est à eux de trouver la bonne formule, pas la CEDEAO. Les Maliens ont suffisamment souffert. Ils ont fait un coup d'État en 2012 avec Ayat Sanogo. Ils ont vu comment la suite a été. Je pense qu'ils ont tiré les leçons de ça. Aujourd'hui, ils sont dans une situation où ils ont vraiment vécu le pire au Mali. Il n'y a pas mieux que les Maliens pour se soucier de l'avenir du Mali aujourd'hui. La CEDEAO peut toujours se cramponner derrière son protocole sur la bonne gouvernance, mais je pense que les Maliens parlent des choses qu'ils vivent dans leur chair. À mon avis, ils doivent mettre l'accent sur un consensus entre le M5 et la junte qui a pris le pouvoir à Bamako. Et c'est de ça qu'on doit trouver la solution. Parce que, quelle que soit la personne que tu poses à la tête de l'État, il va gérer avec les Maliens, il doit parler avec les autres. Alors, s'ils n'ont pas quelqu'un qui est capable de faire un consensus et d'aller vers les questions essentielles, même si la CEDEAO l'impose, il ne pourra pas tenir la transition au Mali. C'est pour ça que la CEDEAO doit avoir un rôle d'accompagnement. Je comprends qu'elle ait pour souci la stabilité au Mali, mais elle n'a pas à imposer qui doit diriger le Mali.
Donc pour vous, la CEDEAO doit jouer surtout le rôle de médiateur, de facilitateur du dialogue entre Maliens, notamment entre le CNSP et voilà, le M5 qui regroupe les différentes tendances sociopolitiques.
Voilà, on ne peut pas s'asseoir à Niamey, à Abidjan ou à Accra, dire voilà ce que vous faites, faites ci, faites ça. On l'a déjà décrié avec les puissances coloniales. On l'a décrié avec ces gens qui, sous le couvert d'être nos partenaires, qui veulent tout dicter à nos pays. On ne peut pas dicter à un peuple le choix qu'il doit faire, ce n'est pas possible. On n'est même pas à une CEDEAO des peuples, c'est une CEDEAO de dirigeants pour l'instant. Donc le rôle de la CEDEAO, c'est d'accompagner les acteurs maliens, dire qu'ils sont à un moment crucial, que la stabilité du Mali aura des bons effets sur toute la sous-région, surtout dans ce temps de crise. Donc la CEDEAO doit avoir vraiment ce rôle-là. Pas à dire, c'est ça ou rien. Non, c'est pas concevable pour moi.
Merci beaucoup Hassan Boukar pour votre intervention. Nous revenons au studio pour terminer. Nous sommes dans le dernier virage. Maimouna Diado, alors comment comprenez-vous en tout cas toute cette tergiversation entre la CEDEAO et le CNSP au sujet de certaines en tout cas exigences, la durée et la nature en tout cas ou le profil de celui qui doit diriger la transition? Et comment peut-on en sortir?
Je pense que, bon, concernant cette situation de qui doit diriger la transition ou pas, que ça soit militaire ou civil, je pense que la CEDEAO, comme l'a dit Hassan, la CEDEAO doit être observateur, doit être quelqu'un qui doit réconcilier le peuple malien. Ça veut dire quoi, réconcilier le peuple malien? Déjà, vous avez mis des embargos à ce pays. L'embargo existe aujourd'hui. Vous n'avez pas levé d'abord l'embargo à ce pays. Vous avez fait en sorte que aujourd'hui ceux qui ont cherché, ceux qui ont fait le coup d'État, et se sont donné le pouvoir d'abord d'aller jusqu'à une exigence de 3 ans pour la transition. Chemin faisant, ils se sont retrouvés à 2 ans et maintenant c'est à 18 mois. Et je pense qu'à 18 mois, c'est acceptable. Mais est-ce que aujourd'hui la CEDEAO a le pouvoir de dire que ça doit être un civil qui doit diriger aujourd'hui
la transition est aussi un premier
mais
ministre.
Mais dans les autres pays africains auparavant, nous avons, ici même au Niger, nous avons eu des coups d'État. Mais est-ce que l'exigence de la CEDEAO, c'était de mettre un civil pour que ce civil dirige d'abord le pays? Non, je pense que c'est un militaire qui avait à son temps dirigé le pays pour nous.
Et qui a conduit à des élections.
Mais pourquoi ne pas donner la chance à ces Maliens, la chance à ces militaires aussi, de prouver à ce pays qui est le Mali, parce que le Mali les appartient. De toutes les manières, ils vont pas mettre le feu au Mali, mais ils vont essayer de stabiliser le pays. Ils sont déjà en proie à une crise qui est l'insécurité. Ouais. Donc il faut pas venir rajouter encore d'autres tensions qui pourront aller au loin. Plus loin que cette insécurité. Voilà, je pense que la CEDEAO n'a pas à tirer entre les Maliens. C'est la CEDEAO n'a qu'à laisser les Maliens se concerter entre eux, trouver le bon monsieur qui va mener la transition de 18 mois. C'est tout.
Houssaine Issa, nous terminons avec vous rapidement. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui? Sur quoi les acteurs en question, CEDEAO, CNSP, doivent mettre l'accent?
CEDEAO là.
Ouais,
est-ce que c'est CEDEAO? Non, mais d'accord, oui, syndicat des chefs d'État. Parce que la CEDEAO a été conçue, a été créée pour promouvoir l'intégration des peuples et des économies. La frontière du Niger, ça fait plus d'un an que c'est fermé, les frontières du Niger. La CEDEAO est là. Qu'est-ce que la CEDEAO a fait? Ils ont des problèmes au Mali. Ils ont marché pendant combien de mois en train de chercher à faire piter le président. Finalement, c'est quand les militaires sont arrivés maintenant. La CEDEAO sort de ses gongs pour dire non, on n'est pas d'accord, vous ne pouvez pas rester. Le protocole sur la démocratie et la bonne gouvernance. Quand les chefs d'État parlent, ils ne mettent jamais en avant la bonne gouvernance.
La transparence,
C'est ça le plus important. Qu'est-ce qui prouve que le civil qui va venir va mieux organiser les élections? Par contre, un militaire peut-être peut permettre à ce que le jeu soit transparent. Parce que c'est ça aussi le risque quelque
part. Parce qu'après tout, il va retourner,
dans sa caserne, sur le terrain. Bien évidemment. Et vous avez vu, peut-être dans les autres pays, chaque fois, c'est à l'occasion des coups d'État que des progrès sont faits en matière de tests pour essayer de stabiliser un peu le fonctionnement des pays. Moi, je dis, la CEDEAO est en train d'outrepasser un peu ses prérogatives. Il doit s'occuper d'autres choses. La preuve, en Côte d'Ivoire, Ado a changé de constitution pour vouloir s'imposer en Guinée-Conakry. Même chose, il a fait un référendum pour changer la constitution.
Personne
n'en a parlé. C'est des crises Chacun balaye devant sa porte.
Merci Houssaini, chacun balaye devant sa porte. C'est sur ces mots que nous refermons le forum de la presse d'aujourd'hui. Nous étions en compagnie de nos confrères Maimouna Diado, journaliste freelance, Hassan Boukar, journaliste à la radio alternative, il était au téléphone avec nous, et Houssaine Issa, également journaliste freelance. Merci à tous, je suis Alassane Kouzi Mamadou pour la présentation de cette émission. Le volet technique a été assuré par Houssaini Issaka et la régie vidéo assurée par Al-Mustapha Ayouba. Je vous rappelle le rendez-vous hebdomadaire du programme des jeunes samedi et dimanche dès 17h avec l'actu des jeunes en 5 langues, suivi de tous à la FADA. Et à partir de 18h15 samedi, le forum en Hausa sur le thème la problématique de la gestion des personnes déplacées dans la région de Diffa. Et dimanche, le forum en Zarma sur le thème les richesses dont regorgent les musées du Niger. Merci, bonsoir.